Merci, bonjour tout le monde. Je ne parle pas allemand, je ne parle pas anglais, je vais parler en français. Et j'espère que les images peut-être seront parlantes pour ceux qui ne comprennent pas français. Et je suis disponible avec des collègues aussi à faciliter les traductions pour pouvoir répondre à vos questions et pour pouvoir aussi apporter certaines clarifications. Comme Monsieur Jonas l'a dit, là on est dans la pratique. Peut-être que ceux qui sont intéressés pourront voir certains produits que je suis venu avec, qui ont été cultivés de façon agroécologique. Et que vous aurez l'occasion de voir aussi sur les présentations, des explications beaucoup plus détaillées. En Guinée-Bissau, oui, on fait l'agroécologie. Avec l'appui de SwissAid, les producteurs ont commencé à faire l'agroécologie, et c'est une technique ou pratique qu'on fait et qui permet aux paysans de communiquer avec les produits, de parler avec les plantes, de parler avec le sol et de découvrir quels sont les problèmes et de chercher des solutions ensemble. Donc le laboratoire, c'est sur le terrain, c'est pas dans les bureaux, c'est pas avec le matériel, c'est pas avec les équipements. La Guinée-Bissau est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest et qui se trouve au niveau de la côte atlantique, mais qui fait frontière avec le Sénégal et la Guinée-Conakry. C'est un petit pays qui fait une superficie de 36 000 km² avec une population de 1 500 000 environ. En majorité de femmes, les femmes sont majoritaires, plus de 50% de la population elle est féminine, et une population aussi très jeune, 60% de la population est constituée de jeunes âgés de 12, 15 à 25 ans. Oui, le contexte agricole en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, le contexte agricole est généralement la principale culture développée, c'est le riz, qui est l'alimentation de base de la population. Et il existe des cultures aussi qui sont pratiquées pour l'exportation. C'est plus la culture de l'anacarde qui donne ce fruit qui est très commercialisé en Europe. Et ça, c'est une transformation locale qui a été faite par des producteurs. Et c'est des systèmes aussi de culture à l'échelle familiale, à l'échelle petite exploitation. La population totale agricole, elle représente 82% de la population, et ce sont les femmes qui font plus l'agriculture que les hommes. Les hommes cultivent, mais ils ne sont pas nombreux. Et la principale culture, comme j'avais dit, qui est destinée à l'exportation, c'est l'anacarde, qu'on appelle là-bas localement le cajou. Les importations alimentaires, elles sont très importantes. Le riz, c'est l'alimentation de base, et la moitié de besoins alimentaires en riz, elle est importée. Malgré la production faite, elle ne suffit pas à couvrir les besoins alimentaires. La consommation en céréales de façon générale, le riz, les autres céréales secondaires, elle représente 75% de l'alimentation des populations. Et les superficies totales cultivées au niveau du pays représentent un tiers de la superficie totale du pays. C'est un pays qui n'est pas assez grand, qui est suffisamment couvert d'eau, d'eau salée, d'eau douce, et ce qui fait que les terres cultivables ont une superficie quand même un peu petite, très réduite. Les cultures sont faites une fois dans l'année, un seul cycle. Ça dépend fortement de la pluviométrie. Et les cultures ne sont pas généralement irriguées. Il y y a qu'une culture qui est irriguée, c'est le maraîchage de la production de légumes en période sèche. Et les saisons des pluies, ça dure de 5 à 6 mois selon les variances climatiques et selon les années. Parmi les systèmes de culture, nous avons la riziculture dans les vallées. C'est un pays qui a un relief plat, mais avec certains endroits où on a des vallées qui sont destinées à la production. Et ils cultivent là-bas le riz, comme vous avez vu ici. Ça, par exemple, c'est un riz qui a été cultivé dans la vallée. Et cette variété peut aller aussi dans un autre système de culture, dans la mangrove. La mangrove aussi, c'est des zones où on a beaucoup de plantes, des palétuviers, qui sont favorables aussi à l'écosystème maritime, à l'écosystème environnemental, pour pouvoir préserver les sols, pour pouvoir conserver l'environnement, et c'est très favorable pour la culture du riz. Et la troisième... C'est bon. Le troisième système de culture, c'est la culture sur le plateau. Sur le plateau, les paysans cultivent les céréales, les paysans cultivent les tubercules, les paysans cultivent aussi, ils font l'arachide, ils font le haricot, ils font les légumes. Et parmi les types de tubercules, par exemple, il y a la patate douce, ça, ce sont les paysans qui cultivent ça de façon agroécologique, c'est biologique, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de machine qui a travaillé ça, tout est fait à la main. Et ces différentes cultures permettent une consommation pour les familles, parce que c'est une agriculture qui est faite à l'échelle familiale, exploitation familiale, et une partie souvent destinée au marché pour la commercialisation qui permet souvent aux familles de gagner de petits revenus pour subvenir aux autres besoins de la famille comme la santé, l'éducation et l'habillement et la construction aussi de maisons. L'usage d'intrants chimiques, oui, ça existe. Aujourd'hui dans le monde, partout où on va, on utilise des intrants chimiques. Mais en Guinée-Bissau, j'avoue que c'est très, très, très faible. Parce que les paysans n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir acheter des intrants chimiques et utiliser dans les champs. Et aussi, heureusement, il n'y a pas la présence d'industrie chimique dans le pays. Donc ça aussi, c'est une chance et on souhaite que ça continue. Donc ça ne favorise pas trop l'utilisation des produits chimiques dans les cultures. C'est une agriculture qui est beaucoup plus faite de façon traditionnelle, avec les connaissances traditionnelles, les connaissances des anciens que les producteurs ont toujours gardées et qui continuent toujours à travailler. La production agricole, il y a beaucoup d'avantages en Guinée-Bissau. On a une nature très favorable. On a des paysans qui produisent de façon traditionnelle. Malgré, il y a quand même des contraintes. Et parmi les contraintes, comme j'avais dit, il y a l'irrégularité des pluies. Parce qu'on fait l'agriculture une fois dans l'année et on dépend de la pluviométrie. S'il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. S'il ne pleut pas suffisamment aussi, ça impacte aussi les productions. Et les pluies sont devenues irrégulières depuis une certaine année, dues à l'effet des changements climatiques dont on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, ça fait 10, 5 ans. Il y a des irrégularités de pluie à 2%. Et il y a la monoculture de la noix de cajou. La noix de cajou, elle est produite au niveau du pays, partout où on va, dans les villages, dans les villes. C'est une culture vraiment présente, une culture de rente qui permet aux familles de gagner de l'argent, des revenus rapides et assez importants. Donc tous les paysans pratiquement font cette culture qui est destinée à l'exportation. Il y a aussi autre contrainte, il y a la facilité de l'importation du riz. Au niveau des politiques, il n'y a pas une bonne gestion, un bon contrôle pour pouvoir régulariser les importations. Et ceux qui sont dans le commerce de l'exportation et de l'importation peuvent faire entrer les produits quand ils veulent, comme ils veulent. Et ça, ça ne met pas les paysans à l'abri. Quand ils voient que les riz viennent d'autres pays, de l'Asie ou de l'Amérique, et qu'ils peuvent acheter à moindre coût, ça les décourage pour aller travailler les champs. Et l'autre contrainte, c'est la dégradation aussi des systèmes rizicoles. Au niveau des systèmes rizicoles comme les vallées, comme la mangrove, il y a souvent l'envahissement d'eau salée. Il y a trop d'eau salée qui n'est pas adaptée aux variétés cultivées là-bas. Et c'est des variétés, je rappelle, des variétés vraiment locales qui ont été héritées de générations anciennes, mais qui sont toujours sauvegardées par les paysans, même s'ils ont besoin encore d'être reproduites, d'être mieux préservées. D'autres contraintes que les producteurs ont, c'est l'envahissement, l'enclavement des zones de production par rapport au marché. Ils n'ont pas de moyens de transport pour acheminer les produits vers les marchés. Les routes ne sont pas en bon état pour pouvoir transporter les produits. Et les paysans sont faiblement organisés aussi pour pouvoir faire des ventes groupées, pour pouvoir s'organiser, pour vendre leurs produits de façon régulière et à des prix qui sont aussi uniformisés. Il y a une grande contrainte qui est l'analphabétisme. Les paysans en Guinée-Bissau n'ont pas fait l'école. Ils ne sont pas formés de façon formelle, de façon institutionnelle. Le savoir qu'ils ont, c'est le savoir qu'ils ont appris sur le terrain. Et il y a les facteurs aussi socioculturels qui ne favorisent pas trop à la production agricole. C'est la division des tâches. Les femmes qui font plus l'agriculture et les hommes ne pratiquent pas trop l'agriculture. Donc il y a une répartition des tâches traditionnelles qui fait que ça fait une charge de travail chez les femmes et ça ne facilite pas non plus d'avoir des productions d'une assez grande quantité pour nourrir toute la famille. Aussi, on a des semences comme contrainte, oui, comme j'avais dit, des semences, on a des semences locales, mais c'est des semences qui nécessitent d'être encore retravaillées pour pouvoir les améliorer, les préserver. Et il y a certaines semences aussi, d'autres produits qui ne sont pas disponibles là-bas, dont les produits sont demandés sur le marché. C'est certaines semences de légumes, comme la carotte qui vient de l'Europe, comme les choux, c'est des semences que les producteurs ne peuvent pas produire là-bas. Et du coup, ils dépendent des semences qui viennent d'ici pour pouvoir faire ces produits. Il y a l'absence de crédit agricole. Le système financier ne permet pas aux paysans d'avoir accès à des fonds pour pouvoir démarrer leur campagne agricole. Et au niveau de l'État aussi, il n'y a pas un appui pour pouvoir les accompagner, les encadrer. Les banques qui sont là-bas sur place favorisent plus d'autres clients que des paysans. La collaboration timide avec les autorités, avec l'État, avec le ministère de l'Agriculture, ne travaille pas trop avec les projets, avec les équipes des programmes sur place qui appuient les agriculteurs. C'est un système qui est un peu en retrait de la réalité, dû à l'instabilité politique, dû à souvent des coups d'État répétitifs qui se passent dans le pays, ce qui fait qu'au niveau des services techniques, ça ne fonctionne pas trop. On a aussi, donc ça crée l'absence de mise en œuvre de politique agricole. Il n'y a pas de politique agricole pour pouvoir cadrer les choses, pour pouvoir organiser, orienter les producteurs. Alors, qu'est-ce que SWICET a fait devant toutes ces contraintes, devant ce contexte où les paysans ont besoin d'appui, ont besoin d'être accompagnés? L'agroécologie. SWICET a fait la promotion de l'agroécologie en Guinée-Bissau. L'agroécologie n'existait pas en Guinée-Bissau avant l'intervention de SWICET. Vous avez dit, les gens faisaient la production agricole de façon traditionnelle, qui était moins structurée, qui était moins encadrée et qui donnait moins de rendement. Mais avec l'introduction de l'agroécologie que Suissel a promue en Guinée-Bissau, d'abord à travers un diagnostic qui a été mené en 2014 pour pouvoir voir quelles sont les contraintes, pour pouvoir identifier les problèmes avec les paysans et trouver des solutions avec eux. Suissel a fait un partenariat avec une ONG internationale qui s'appelle AgriSud, qui est basée en France, à Toulouse. Et c'est une ONG qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'agroécologie, qui encadre beaucoup de paysans, de producteurs et d'organisations producteurs au sud, qui a assez d'expérience pour pouvoir aussi apporter un appui à ce projet-là qu'on a développé en Guinée-Bissau. Donc, le partenariat d'AgriSud a permis de faire des formations avec différents acteurs et locaux qui ont été identifiés, qui ont été formés sur les pratiques agroécologiques, qui ont été formés sur les techniques, qui ont été formés sur l'entrepreneuriat au niveau de l'exploitation familiale, comment encadrer les paysans, comment les accompagner pour qu'ils puissent améliorer leur méthode de production, pour qu'ils puissent avoir plus de rendement. Et pourquoi cette stratégie, avoir ce réseau d'acteurs, c'est des volontaires, c'est pour garantir la durabilité du projet. Les projets sont sur une durée bien déterminée et quand ça termine, il faut qu'il y ait une continuité. Donc si c'est des locaux qui sont encadrés, qui sont formés pour pouvoir apporter un accompagnement aux paysans après le projet, on pense que ça pourrait être durable. Et la capitalisation donc, de tout ce travail, ce processus qui a été entamé depuis le diagnostic à la formation d'acteurs locaux a été capitalisé pour identifier les bonnes pratiques et pouvoir les partager aussi avec d'autres pays et avec d'autres partenaires qui vont s'en inspirer, qui en auront besoin aussi peut-être pour implémenter la même stratégie. Et au niveau des champs, l'appui qui a été apporté, c'était d'abord à travers l'identification et mise en place de sites pilotes. C'est comme j'avais dit, nos laboratoires, c'est sur le terrain, c'est au champ. Donc, c'est des champs écoles qui ont été identifiés avec les paysans, où on a demandé aux paysans d'identifier où est-ce qu'ils veulent mettre leur champ école pour pouvoir apprendre là-bas les pratiques ensemble, identifier quelles sont leurs contraintes, proposer des solutions et les développer ensemble pour voir quels résultats ça apporte. C'est à partir de ces champs écoles que les paysans vont aller répliquer chacun dans son champ individuel, dans son exploitation familiale. Et il y a l'appui conseil aussi derrière, parce que ces acteurs locaux qui ont été identifiés et qui ont été formés suivent les paysans pour les accompagner, pour recadrer, pour pouvoir apporter aussi l'appui dont ils souhaitent. Et aussi au niveau des champs toujours, que ce soit le champ école ou les champs au niveau des exploitations familiales, a permis de développer la diversification de produits. Parce qu'aujourd'hui, les paysans sur la même parcelle, ils arrivent à faire différentes cultures et les récolter au même moment ou à des moments différents. Et ça a permis d'avoir des productions qui permettent de diversifier aussi la consommation, la nutrition à la maison et de pouvoir vendre et d'avoir accès au marché pour valoriser les produits que les paysans cultivent de façon biologique, qui nous a conduit aujourd'hui à avoir un partenariat avec le Centre culturel français en Guinée-Bissau, qui a introduit dans son agenda culturel un marché bio où les femmes viennent vendre les légumes tous les samedis. Il y a aussi la multiplication, une multiplication très spontanée et une multiplication rapide des paysans qui voient, qui ne sont pas bénéficiaires des projets, mais quand ils voient les résultats de leurs collègues paysans qui ont bénéficié de ces projets, ils vont répliquer automatiquement. Ils passent par leurs collègues paysans pour demander « Ah, comment vous avez fait pour avoir ça? Comment vous avez fait pour cultiver ça et que ça donne ça ?» Donc, il y a un échange de connaissances, un partage de paysans à paysans qui a amené une multiplication automatique sans que le projet intervienne. Voilà quelques images des sites pilotes qui ont beaucoup aidé à la promotion de l'agroécologie, à l'intensification de l'agroécologie en Guinée-Bissau, dans les zones d'intervention de Suicide. La photo que vous voyez là, à gauche, c'est des puits. Dans les sites pilotes, on installe des équipements, des puits pour pouvoir avoir accès à l'eau de l'irrigation, des clôtures pour éviter la divagation des animaux, parce que souvent dans les villages, il y a des animaux qui sont dans la nature, et si les jardins ne sont pas clôturés, ils peuvent rentrer et manger des cultures. Et il y a aussi le petit matériel agricole. On ne cultive pas avec des grands engins, on n'utilise pas les engins à moteur, donc tout est fait de façon manuelle, tout est fait avec le petit matériel, la houe, la hache, la machette. Les pratiques, les formations agroécologiques qui ont été données aux paysans et aux différents acteurs, ils ont été formés pour faire leur propre compost, pour pouvoir fertiliser le sol, les associations de culture pour pouvoir éviter et lutter contre certaines attaques, et en même temps aussi pour travailler la fertilité du sol. Des biopesticides à base de nîmes, qui sont des plantes sauvages, naturelles, qui se trouvent là-bas dans le pays, qu'ils utilisent pour prévenir certaines attaques. Et des pépinières sur table pour aussi pouvoir anticiper les cultures et éviter certaines attaques au niveau des plantes depuis la pépinière. L'appui à la production de semences. On ne peut pas parler de l'agroécologie sans parler de semences. Si le paysan n'a pas de semences, il ne peut pas produire, il ne peut pas manger. Des paysans pilotes ont été identifiés pour produire des semences. Et les premières semences qu'ils ont produites ont permis de multiplier. Et au niveau du village, chaque paysan a pu avoir ses semences pour commencer ses campagnes. Et la promotion des semences aussi, en même temps, ça a été une façon pour autonomiser le paysan, pour qu'il ne dépende pas des semences qui rentrent, des semences qui viennent des industries. Ça, c'est des semences locales qui sont adaptées aux zones, qui sont adaptées au milieu, et que le paysan connaît mieux, il connaît plus que des semences qui sont importées, qui produisent, qui donnent des rendements très faibles pour la production, et ils sont obligés à chaque fois de les acheter, alors que ces semences-là, ils les préservent, ils les gardent et ils les multiplient chaque année. Ça leur permet d'avoir une autonomie en semences et d'être autonome aussi à la production. Et d'autres semences de riz, on a ici des semences de maïs, des semences de haricots, des semences de sorgho, des semences de tubercule. Donc vous aurez l'occasion de voir ici aussi, si certains sont intéressés, ils peuvent toucher. C'est des semences de riz qui sont là, des semences de tubercule. On a aussi l'arachide. Donc c'est des produits qui sont faits par les paysans et dont les semences sont produites aussi par les paysans. Les semences, il faut bien les gérer, sinon on va les perdre. Les paysans ont leur façon traditionnelle de garder les semences. Ils ont des greniers traditionnels, mais souvent qui ne sont pas bien adaptés pour pouvoir très bien conserver les semences. Et dans le cadre de l'appui des projets, il y a la construction de magasins qui permet de stocker les semences dans les conditions optimales pour pouvoir avoir des semences de qualité jusqu'à la prochaine campagne. La valorisation des rizières, les zones de culture de riz. Souvent, ils sont confrontés aussi à la problématique d'envahissement des eaux ou au problème de gestion de l'eau. Et dans le cadre des projets, l'accompagnement qu'on apporte, c'est de pouvoir construire des digues de façon traditionnelle aussi pour pouvoir gérer l'eau qui rentre et à quel moment il faut ouvrir les vannes pour que l'eau sorte pour contrôler le niveau de l'eau dans les champs. Les suivis et réplications des champs individuels et familiaux, des pratiques agroécologiques. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, les connaissances, ça passe très rapidement de paysan à paysan, mais ça nécessite aussi toujours qu'on soit là pour apporter des recadrements, pour accompagner en cas de difficulté. Et là, on voit que c'est des paysans qui ont appris au niveau des champs écoles et qui répliquent les pratiques dans leurs champs. La photo à gauche, elles ont préparé leur biopesticide avec écorce de cassédral. Cassédral, c'est un très grand arbre en Afrique qui est très culturel et dont les feuilles et les écorces servent souvent pour d'autres usages. Et l'écorce de cassédral, ça sert de biopesticide pour pouvoir lutter contre les attaques d'insectes. Et là, on a des femmes qui préparent le compost pour leur champ de production de légumes. Elles font leur compost elles-mêmes. Elles ont appris ça au niveau du champ école. Elles partent dans leur champ collectif. Elles font la même chose. Donc c'est pour pouvoir garantir la fertilité du sol. On a mené aussi la stratégie de la promotion de l'agroécologie au niveau national. C'est bien de le faire avec les producteurs, les paysans. C'est bien de s'organiser en réseau, entre associations, entre ONG, mais ça ne suffit pas. Et ce que SUICED a identifié pour aller à une échelle de beaucoup plus stratégique, échelle de décision, c'est de faire des communications à travers les médias, à travers les journaux, de faire connaître l'agroécologie, que c'est possible, qu'il y a des paysans qui le font déjà, qui le pratiquent. Et ces sensibilisations ont été faites avec les paysans, pas SUICED seulement, parce que les paysans, ils ont pratiqué, ils ont vu les résultats, ils ont compris. Donc, ils sont mieux placés pour passer l'information, ils sont mieux placés pour défendre, pour faire la promotion de l'agroécologie, tout en ayant l'appui de SUICED derrière, l'encadrement de SUICED. Il y a eu le plaidoyer qui a été fait au niveau des autorités. À travers les conférences, on a organisé une conférence en agroécologie où il y a des parlementaires qui ont participé aux conférences et qui ont compris, qui ont la conscience. Maintenant, on attend les décisions, qu'est-ce qui sera fait. Et il y a le réseautage au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On participe à beaucoup de réseaux, des réseaux qui sont là pour lutter pour la cause des paysans, pour la préservation des semences, pour la promotion de l'agroécologie. À travers des foires, à travers des conférences qu'on a eues aussi à partager et à montrer qu'est-ce que nos producteurs font et comment ils le font, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec les autres, qu'est-ce qu'on peut échanger. Donc ça, c'est la sensibilisation, les sensibilisations qu'on fait à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les différents canaux dont on dispose au niveau local et au niveau sous-régional. Ouais. Et la participation à des foires sur la préservation des semences paysannes, l'échange de connaissances entre paysans. Et tout ce travail qu'on a fait au niveau des paysans, au niveau des champs, des formations, au niveau aussi des autorités pour pouvoir avoir des décisions politiques qui vont aider, nous a donné comme résultat aujourd'hui, on a 5 champs pilotes qui sont opérationnels. Des champs écoles, quand on parle de champs pilotes, c'est champs écoles où les paysans apprennent d'abord pour pouvoir répliquer dans leur propre champ. Et environ, on a 12 500 paysans qui font la réplication, qui ont reçu des formations, des pratiques agroécologiques et qui font la réplication dans leur champ. Une adoption spontanée de l'agroécologie. Ils voient les résultats et ils l'appliquent, ils l'adoptent automatiquement. Les rendements moyens des productions. On est passé de 1 tonne à l'hectare à 2 tonnes hectare pour le riz. Avant la production, avec la production traditionnelle ou l'utilisation d'intrants chimiques, les gens étaient à 1 tonne hectare. Aujourd'hui, ils sont passés à 2,5 tonnes. Et pour le maraîchage, ils sont passés de 2,5 tonnes hectare à 19 tonnes hectare environ. Et les céréales secondaires, le riz, le maïs, le mil, ils sont passés à 0,5 tonnes à 1 tonne hectare. Et parmi les résultats aussi, on a la diversification Les paysans produisent plus de cultures dans les mêmes surfaces et à des périodes différentes pour pouvoir garantir leur alimentation toute l'année et pour pouvoir aussi varier leur diète alimentaire. On a l'association de culture qui n'était pas trop pratiquée parce que les paysans n'avaient pas de connaissances suffisantes de quelle culture associer avec quelle culture. Et l'agroécologie a introduit ça pour pouvoir améliorer les méthodes de production et améliorer aussi la disponibilité de produits. La valorisation des terres. Il y a beaucoup de terres que les paysans avaient abandonnées parce qu'elles n'étaient pas très fertiles ou parce que les paysans n'avaient pas les techniques, n'avaient pas les moyens pour les produire. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement dans l'agroécologie, ils ont récupéré beaucoup de terres qu'ils ont pu mettre en valeur en améliorant la fertilité des sols et en augmentant aussi leur production. L'autre succès, c'est la réduction de la période de manque de nourriture. Avant de rentrer dans les pratiques agroécologiques, les paysans pouvaient rester 3 à 4 mois sans avoir de nourriture, ou certains, s'ils mangeaient, ils mangeaient un repas par jour. Et avec l'augmentation des rendements qu'on a dû voir dans les slides précédents, les paysans arrivent à manger au moins 2 fois par jour. Et il y en a qui arrivent à avoir 3 repas par jour. Il y a une augmentation significative aussi des revenus. Les femmes, ce sont les femmes qui sont dans la production agricole. Et tous les produits agricoles qui sont commercialisés, c'est fait par les femmes. Ça a permis aux femmes de gagner plus de revenus. Et ça contribue aussi à leur émancipation, car elles contribuent aux dépenses de la famille, car elles peuvent avoir elles-mêmes leur propre argent à gérer et à faire leurs propres dépenses sans dépendre des maris. Il y a aussi la mise en place d'un marché bio, de vente de légumes biologiques, qui n'existait pas du tout en Guinée-Bissau. Et ça permet de valoriser le travail des femmes, ça permet de valoriser les produits qui sont cultivés par les femmes. La mise en réseau des producteurs avec les restaurants, avec les cantines scolaires pour pouvoir mieux commercialiser, ne pas se limiter seulement au marché, mais identifier aussi d'autres canaux pour faciliter la commercialisation des produits. Et enfin, nous avons le renforcement et la valorisation de la consommation des produits locaux. Les producteurs aujourd'hui sont fiers de consommer ce qu'ils ont produit. Même s'il y a certains produits qui rentrent encore, qui sont importés d'autres pays, mais la majeure partie de la consommation des produits, c'est des produits qui ont été cultivés dans le territoire et dont ils savent plus, dont ils ont la garantie de la qualité, dont ils ont la garantie aussi de la traçabilité. Tout n'a pas marché ou il y a des choses encore qui restent à être améliorées. C'est des défis. Qu'est-ce qu'on envisage après tout ça? Il y a eu des résultats, de bons résultats. On a eu ça, oui. Mais il y a toujours des défis à affronter. C'est la prise en compte et la valorisation des semences des paysans. Ils ont commencé, mais ça reste encore à renforcer et aussi à influencer au niveau des politiques pour pouvoir prendre en compte la production de semences locales chez les paysans. La diffusion de l'agroécologie à plus grande échelle. Jusqu'ici, on fait l'agroécologie que dans les zones d'intervention du programme de SUCED. Et SUCED n'intervient pas dans toute la Guinée-Bissau. Donc, avec les résultats qu'on a eu déjà dans les zones, on peut passer au niveau, à une échelle beaucoup plus élargie, à une échelle beaucoup plus grande. Le renforcement des investissements au niveau des périmètres, c'est important. S'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas les moyens de production suffisants, les paysans ne peuvent pas produire, on ne peut pas faire l'agroécologie. Ça aussi, c'est un autre défi. la prise en compte du plaidoyer et l'accès à la terre aux femmes. En Guinée-Bissau, les femmes n'ont pas le contrôle de la terre. Elles ont accès à la terre, mais elles n'ont pas contrôle à la terre. Une femme ne peut pas hériter de la terre. Une femme ne peut pas acheter la terre. Une femme ne peut pas donner la terre. Ça, c'est la principale contrainte. Si on n'a pas de terre, on ne peut pas faire l'agriculture. On ne peut pas développer l'agroécologie. Ça, c'est un défi. Et faire une plus large sensibilisation aussi au niveau des paysans pour pouvoir toujours travailler, développer la promotion de l'agroécologie, la préservation des semences, la diversification de la production agricole et principalement l'allègement des travaux des femmes. 80% des producteurs, productrices, des paysans sont des femmes. Et c'est les femmes qui elles font tout à la main. Elles travaillent dans les champs. Elles travaillent dans les maisons, les travaux ménagères. Elles s'occupent des enfants. Elles s'occupent des dépenses des familles. Elles sont tellement chargées que le temps, parfois, pour travailler dans les champs, ça ne suffit pas pour pouvoir avoir les rendements qu'il faut et pour pouvoir avoir aussi une qualité au niveau de la production. Les résultats sont là, mais les contraintes existent et qui sont liées à ça, à la division des travaux, où ce sont les femmes qui travaillent plus. Et ça nécessite un appui ou un accompagnement des hommes ou une révision au niveau des systèmes de culture, de traduction au niveau des communautés. Encourager aussi la transformation. La transformation des produits locaux, ça permet de garantir en période hors saison la disponibilité des produits. Donc ça, c'est un défi aussi qu'on doit faire face, qu'on doit relever. Parmi les leçons apprises, on sait que faire des champs écoles, ça facilite la promotion de l'agroécologie, ça facilite l'apprentissage aussi au niveau des producteurs. Et légaliser les terres, ça garantit la durabilité de l'agroécologie. Si on n'a pas de terre, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas faire l'agroécologie. Les diagnostics avec le paysan dans son champ avant de commencer l'accompagnement, c'est très important parce que ça permet d'identifier les contraintes avec le paysan, les problèmes et de trouver des solutions avec le paysan. Les leçons apprises, on a le pôle de compétences qui est le réseau d'acteurs qui a été formé, qui après le projet, même si Suisse n'est pas là, pourra garantir l'accompagnement, pourra assurer la durabilité. Les facteurs de production, l'accompagnement en équipement qui a été apporté, ça a beaucoup favorisé aussi le développement des pratiques, ça a beaucoup motivé aussi les producteurs. Et ce que je remarque personnellement, ce que l'agroécologie a changé dans la vie des paysans, ils ont maintenant accès à la terre parce qu'avec la promotion de l'agroécologie, Suisse a pu accompagner la légalisation de terre à certains groupements de femmes. Et ça a permis aussi une autoproduction de semences et de pouvoir préserver les semences locales. Ça a permis aux producteurs d'économiser sur leur coût de production. Ils dépensent moins pour pouvoir produire. Ça a permis aussi un changement de comportement grâce à la dégradation de l'environnement, car ils sont conscients qu'au niveau des espaces de culture, il faut préserver aussi l'écosystème environnemental. Ils font des reboisements à côté de leur périmètre maraîcher, à côté aussi de leurs espaces de culture rizicole pour lutter contre l'érosion, pour lutter contre la dégradation de l'environnement et la déforestation aussi. Et il y a eu la réintroduction avec la promotion de l'agroécologie des plats traditionnels qui étaient laissés mais qui ont été ramenés car aujourd'hui ils ont plus de disponibilité alimentaire pour pouvoir faire plus de plats, pour pouvoir manger de façon équilibrée. Ce qui m'a frappé et m'a impressionné plus personnellement, c'est qu'ils ont compris l'agroécologie. Faire de l'agroécologie a du sens parce qu'ils faisaient déjà la production traditionnelle qui n'était pas bien structurée. Mais avec l'agroécologie, où on a rapporté plus de structuration, de connaissances beaucoup plus organisées et beaucoup plus préparées qui a contribué à des rendements, ils ont compris que ça a du sens et ils le pratiquent. Ils font des comparaisons avec des champs de démonstration, avec l'utilisation de produits chimiques et l'utilisation aussi de matières organiques pour voir quels sont les rendements. Ça aussi, ça m'a beaucoup impressionné. L'augmentation des rendements aussi, aujourd'hui, avec les rendements qu'ils avaient avant, qui n'a pas trop permis d'atteindre certains besoins d'alimentation, aujourd'hui, ils ont eu des rendements un peu plus élevés. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Merci d'être aussi long et je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette communication. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité.